Chapitre 2. À l'heure où le jeune marquis revenait lourdement chargé vers le château, Madame de Beaulieu et Claire, assises dans le grand salon, jouissaient de la fin de cette belle journée. Par les larges porte-fenêtres ouvertes sur le perron, le soleil entrait à flots, faisant étinceler leur bruni des cadres entre les larges bordures desquelles les ancêtres se dressaient souriants ou graves dans leurs costumes de cérémonie. Le mobilier Louis XVI, en bois sculpté peint en blanc et rehaussé de filets verts d'eau, était recouvert d'une tapisserie aux petits points représentant les métamorphoses d'Ovide. Un large paravent bas, tendu en velours de gêne, entourait la bergère profonde dans laquelle la marquise était installée, tricotant avec une grande attention des capelines de laine pour les petits-enfants du village. Madame de Beaulieu avait alors dépassé la quarantaine. Son visage grave et doux était couronné par une chevelure déjà presque blanche qui lui donnait un grand air de noblesse. Ses yeux noirs, pleins de mélancolie, semblaient encore humides des larmes secrètes qu'ils avaient versées. Mince, fluette, la marquise était de santé délicate et prenait toutes sortes de précautions. Par cette chaude journée, un grand châle était étendu sur ses genoux, protégeant contre l'air vif ses petits pieds, que par une coquetterie persistante, elle chaussait de mules légères en satin noir. Enfoncée dans un large fauteuil, la tête abandonnée sur le dossier de tapisserie, les mains pendantes et inertes, Claire, les yeux perdus dans le ciel, regardait sans le voir l'admirable horizon qui s'ouvrait devant elle. Depuis une heure, elle était là, immobile, silencieuse, se laissant baigner par le soleil qui faisait resplendir ses cheveux blonds comme une auréole de vierge. Depuis quelques instants, la marquise regardait sa fille avec inquiétude. Un triste sourire avait erré sur ses lèvres et, pour attirer l'attention de Claire, elle avait remué avec affectation la corbeille qui contenait ses pelotons de laine, accompagnant ce mouvement de « significatif. Mais la jeune fille, insensible à ses appels indirects, était restée immobile, poursuivant sa pensée avec une ténacité implacable. La marquise, dépitée, posa alors son ouvrage sur la table et, se relevant dans sa bergère, elle dit avec un léger accent de gronderie « Claire, Claire !» Mademoiselle de Beaulieu ferma un instant les yeux comme pour dire adieu à son rêve et, sans bouger la tête, levant seulement jusqu'au bras du fauteuil ses belles mains blanches. « Ma mère, » répondit-elle, « à quoi penses-tu ? » Claire resta un instant silencieuse. Un pli creusa son front. Puis, faisant un effort sur elle-même, d'un air calme, « Je ne pensais à rien, mère, » reprit-elle. « Cet air tiède m'avait engourdi. Pourquoi m'avez-vous appelée ?»« Pour que tu me parles, » dit la marquise avec une nuance d'affectueux reproche, « pour que tu ne restes pas ainsi, muette et absorbée. » Il y eut un instant de silence. Claire avait repris sa pose abandonnée. La marquise, penchée en avant, avait rejeté son châle sans souci de l'air frais. Mademoiselle de Beaulieu, se tournant lentement vers sa mère, lui montra son beau visage triste. Et, comme reprenant tout haut la suite des pensées qu'elle agitait auparavant tout bas, « Combien y a-t-il de temps, fit-elle, que nous n'avons reçu de lettres de Saint-Pétersbourg ?» La marquise hocha la tête, semblant dire « Je savais bien de quoi il s'agissait. » Et d'une voix qu'elle tâchait de rendre calme, « Il y a 2 mois environ. »« 2 mois, oui, » répéta Claire avec un douloureux soupir. Pour cette fois, la marquise perdit tout à fait patience. Se levant brusquement, elle vint s'asseoir près de la fenêtre, en face de sa fille, et lui prenant la main, « Mais voyons, pourquoi penser sans cesse à cela et te torturer l'esprit ?»« À quoi voulez-vous que je pense ?» dit Claire avec amertume. « Sinon à mon fiancé, et comment ne me torturerais-je pas l'esprit, comme vous dites, pour trouver les motifs de son silence ?»« J'avoue, reprit la marquise, qu'il est difficile de l'expliquer. Le duc de Bligny, mon neveu, après avoir passé 8 jours auprès de nous l'an dernier, est reparti en promettant de revenir à Paris pendant l'hiver. Il a d'abord écrit que des complications politiques le retenaient à son poste. Puis il a prétexté que, l'hiver étant fini, il attendait l'été pour entrer en France. L'été est venu, mais le duc ne vient pas. Voici l'automne, et Gaston ne donne même plus de prétexte. Il ne prend pas seulement la peine de nous écrire. Admettons qu'il n'y ait de sa part que de la négligence. C'est déjà trop. Ma fille, tout dégénère. Les hommes de notre monde eux-mêmes ne savent plus être polis. » Et la marquise redressa sa tête blanche qui lui donnait un air de ressemblance avec les grandes dames poudrées qui souriaient tout autour du salon dans leur beau cadre de portraits de famille. « Cependant, s'il était malade, » hasarda Claire, déjà entraînée à défendre celui qu'elle aimait, « s'il était dans l'impossibilité de donner de ses nouvelles. » « C'est inadmissible, » reprit sans pitié la marquise. « On nous aurait prévenus de l'ambassade. Sois sûre qu'il est en parfait état, qu'il est vermeil et joyeux et qu'il a conduit tout l'hiver le cotillon dans la haute société de Saint-Pétersbourg. » Une crispation nerveuse altéra le visage de Claire. Elle pâlit comme si tout le sang de ses veines avait reflué vers son cœur. Puis, s'efforçant de sourire, « Il m'avait tant promis de venir passer l'hiver à Paris !» Et je me faisais une si grande fête de me retrouver dans notre monde avec lui. J'aurais triomphé de ses succès. Il se serait peut-être aperçu des miens. Il faut avouer, ma mère, qu'il n'est pas jaloux. Et cependant, il aurait sujet de l'être. Partout où nous sommes allés, j'ai été fort entourée. Ici même, dans ce désert de Beaulieu, les adorations n'ont pas cessé, et jusqu'à notre voisin, le maître de forge, qui s'en mêle. Monsieur d'Herblay ? « Monsieur d'Herblay, oui, ma mère. Dimanche, à la messe, vous n'avez pas remarqué cela, vous êtes trop pieuse. Je lisais mes prières à côté de vous, mais sans savoir pourquoi, je me sentais gênée. Une force plus puissante que ma volonté attirait mon attention. Malgré moi, je me détournais, je levais les yeux, et dans l'ombre d'une chapelle, je vis Monsieur d'Herblay incliné. Il priait. Non, ma mère, il me regardait. Nos yeux se rencontrèrent et je lus dans les siens comme une muette invocation. Je baissai la tête et m'efforçai de ne plus me tourner de son côté. À la sortie, je le trouvai sous le porche qui attendait. Il n'osa pas m'offrir l'eau bénite. Il s'inclina profondément, nous passâmes et je sentis son regard qui me suivait. Il paraît que c'est la première fois de l'année qu'on le voit à la messe. La marquise se leva et retournant à sa bergère, dans laquelle elle s'enfonça mollement, « Eh bien, cela lui comptera pour le salut de son âme à ce garçon. Au lieu de te faire des yeux blancs, il devrait bien nous dédommager des empiètements auxquels il s'est livré sur nos limites. Je le trouve assez plaisant avec ses invocations muettes. Et il faut que tu sois bien désœuvré pour t'occuper des soupirs de ce batteur de fer qui nous rendra sourds un de ces matins avec ses marteaux. Ma mère, les hommages de Monsieur d'Herblay sont respectueux et je n'ai pas lieu de m'en plaindre. Je ne vous parle du maître de forge que parce qu'il fait nombre avec les autres. Enfin, le cœur de la femme est changeant, dit-on. Le duc n'est pas là pour défendre son bien. Et moi, le rôle de Pénélope, attendant perpétuellement le retour de celui qui n'arrive pas, pourrait finir par me lasser. Gaston devrait se dire tout cela, mais il ne se le dit pas. Et je reste toute seule, patiente, fidèle. « Et tu as bien tort !» s'écria la marquise avec vivacité. « Moi, si j'étais à ta place ?»« Non, ma mère, » interrompit Mademoiselle de Beaulieu avec une fermeté grave. « Je n'ai pas tort et je n'ai aucun mérite à faire ce que je fais, car j'aime le duc de Bligny. » « Tu l'aimes ?» reprit la marquise, ne pouvant dissimuler son irritation. « Comme tu es toujours exagéré, faire d'une amitié d'enfance un amour profond, d'un lien de parenté une chaîne indestructible. Gaston et toi, vous avez grandi l'un près de l'autre. » Tu as cru que cette communauté d'existence devait se perpétuer et tu ne pouvais pas être heureuse sans le duc. Folie que tout cela, mon enfant !»« Ma mère !» s'écria Claire. Mais la marquise était lancée et l'occasion qui lui était offerte de soulager son cœur était trop belle pour qu'elle la laissât échapper. « Tu te fais de grandes illusions sur le duc. Il est léger, frivole. Il a, tu le sais, des habitudes d'indépendance qu'il ne pourra pas corriger. » Et j'entrevois beaucoup de déceptions pour toi dans l'avenir. Tiens, veux-tu le fond de ma pensée? Je ne verrai pas sans inquiétude ce mariage se faire. » Claire s'était redressée, une rougeur ardente montait à ses joues. Les deux femmes se regardèrent un instant sans parler. Il semblait que le premier mot qui allait être prononcé entre elles aurait une gravité exceptionnelle. Mademoiselle de Beaulieu ne put se contenir et, d'une voix tremblante, « Ma mère, voilà la première fois que vous me parlez ainsi. « Il semble que vous vouliez me préparer à apprendre une mauvaise nouvelle. L'absence du duc aurait-elle des motifs sérieux que vous me cachiez? Est-ce que vous auriez appris ?» La marquise eut peur en voyant l'émotion violente de sa fille. Elle comprit mieux que jamais combien était profond et solide l'attachement de Claire. Elle vit qu'elle s'était trop avancée et, faisant promptement retraite, « Non, mon enfant, je ne sais rien, reprit-elle. On ne m'a rien dit. Je trouve même qu'on ne me dit pas assez, et un silence si prolongé de la part de mon neveu m'étonne. En vérité, il me semble que Gaston pousse un peu bien loin la diplomatie. » Claire fut rassurée. Elle attribua la vive sortie de sa mère à un mécontentement qu'elle ne pouvait elle-même s'empêcher de trouver légitime. Et, s'efforçant de reprendre sa sérénité, « Allons, ma mère, encore un peu de patience. Le duc pense à nous, j'en suis sûre. Et de Saint-Pétersbourg, il va nous faire la surprise d'arriver sans être attendu. » « Je le souhaite, ma fille, puisque tu le désires. En tout cas, mon neveu de Préfond et sa femme arrivent aujourd'hui. Ils viennent de Paris. Peut-être seront-ils mieux renseignés que nous. Tenez, voici Octave qui rentre par la terrasse avec maître Bachelin, » dit vivement mademoiselle de Beaulieu en se levant avec précipitation, désireuse d'échapper à ce pénible entretien. La jeune fille sortit du salon et s'avançant en pleine lumière. Elle avait alors 22 ans et était dans toute la splendeur de sa beauté. Sa taille élevée avait une élégance exquise, et les bras, merveilleusement attachés à des épaules superbes, étaient terminés par des mains de reine. Ses cheveux d'or, noués sur le haut de la tête, laissaient voir une nuque ronde d'une blancheur rosée. Légèrement penchée en avant, les mains appuyées à la balustrade de fer du perron, effeuillant machinalement une des fleurs grimpantes qui s'y attachaient, elle se montrait la vivante incarnation de la genèse dans sa grâce et sa vigueur. Madame de Beaulieu, pendant un instant, la couva des yeux avec admiration. Puis elle hocha la tête silencieusement et poussa un dernier soupir. Les pas des deux arrivants faisaient crier le sable de la terrasse et leur voix parvenait confusément jusqu'au salon. Maître Bachelin était un petit homme de 60 ans environ, arrondi par l'inactivité forcée de sa vie de bureau. Le visage très rouge sous ses cheveux blancs, scrupuleusement rasé, vêtu de noir, avec un soupçon de manchette retombant sur les mains, il était le type accompli du tabellion de l'Ancien Régime. Profondément attaché à ses nobles clients, disant « Madame la Marquise » avec une onction de dévot, il soutenait les intérêts de la famille de Beaulieu par droit héréditaire. Les Bachelin étaient, de naissance, notaires des seigneurs du pays, et le dernier de ces respectables officiers publics possédait avec orgueil dans son étude des chartes remontant à Louis XI, sur lesquels s'étalait la signature rude et féodale du marquis Honoré Onfroy, Jacques, Octave, et le paraforné de l'art d'amour de maître Joseph-Antoine Bachelin, notaire royal. Le retour des maîtres de Beaulieu dans leur château avait causé une joie profonde à l'excellent homme. Pour lui, ce fut une rentrée en grâce. Il avait gémi de l'absence de ses nobles clients, et les tenant enfin dans ce beau pays, il espérait leur voir reprendre l'habitude d'y venir passer tous les étés. Jaloux de faire apprécier son savoir, il s'était mis à la disposition de madame de Beaulieu pour démêler les fils assez embrouillés du procès d'Angleterre. Et depuis 6 semaines, il entretenait avec le sollicitant une correspondance active qui avait mis le feu à l'affaire. En un mois et demi, maître Bachelin avait fait plus de besogne que tous les conseils de la famille de Beaulieu en 10 ans. Et malgré les pronostics fâcheux que l'habile homme avait portés sur les résultats du débat engagé, la marquise était enchantée de son concours et stupéfaite de son ardeur. Elle avait discerné en lui un de ses serviteurs dévoués qui sont dignes d'être élevés au rang d'amis, et elle le traitait en conséquence. Maître Bachelin, venant au château, avait rencontré le jeune marquis à la grille du parc et, le voyant lourdement chargé, lui avait de force pris son fusil qu'il portait sous son bras gauche, serrant sous son bras droit une volumineuse serviette de cuir noir bourrée de papier. « Hé, comme vous voilà embarrassé de vos mouvements, mon pauvre monsieur Bachelin !» dit gaiement Claire au notaire, qui montait précipitamment les marches du perron, en essayant d'ôter son chapeau et en esquissant des révérences cérémonieuses. Veuillez agréer mes très humbles respects, mademoiselle. Comme vous le voyez, je réunis en ce moment les attributs du droit et de la force. Le code sous un bras et le fusil sous l'autre. Mais le fusil est sous le bras gauche. C'est dans Tarma Togé. Mille pardons, vous ne comprenez sans doute pas le latin et je ne suis qu'un pédant. Ma sœur comprend au moins ce latin-là, fit en riant le marquis, et vous êtes le meilleur homme du monde. Maintenant, rendez-moi mon fusil. Merci. Et prenant son arme, Octave gravit le perron à la suite du notaire. Tu as fait bonne chasse, il me semble, dit mademoiselle de Beaulieu en arrêtant son frère sur le seuil du salon et en soulevant le carnier qui pesait sur ses épaules. Je serai modeste et ne me parerai pas des plumes du paon. Ce gibier n'a pas été tué par moi. Et par qui donc? Je n'en sais rien, vraiment, appuya le marquis en voyant sa sœur faire un geste d'étonnement. Imagine-toi que je m'étais égaré sur les terres de Pont-Aven quand j'ai rencontré un autre chasseur qui m'a fait des observations et m'a demandé qui j'étais, se montrant assez raide de forme et assez vif de ton. Mais aussitôt qu'il a su mon nom, il est devenu non seulement conciliant, mais même aimable et m'a fait prendre presque de force ce qu'il avait dans son carnier. « Voilà qui est singulier, dit mademoiselle de Beaulieu. Cet homme a-t-il voulu se moquer de toi ?»« Ma foi, non, je ne le crois pas. Il semblait plutôt avoir à cœur de m'être agréable. Et sa politesse faite, il s'est sauvé à toutes jambes pour m'ôter les moyens de la refuser. Monsieur le marquis veut-il me permettre de lui poser une question ?» dit maître Bachelin, qui avait écouté ce récit avec attention. « Faites, je vous prie, mon cher maître. » Eh bien, comment était le chasseur en question? Un grand gaillard, très brun, coiffé d'un vieux feutre gris et vêtu d'une blouse. Ah ah, c'est bien cela, fit le notaire à voix basse. Je suis, monsieur le marquis, à même de vous renseigner sur votre donateur mystérieux. C'est tout simplement monsieur d'Herblay. Monsieur d'Herblay, s'écria le marquis, affublé d'une blouse comme un paysan et coiffé d'un chapeau défoncé comme un contrebandier? Impossible. N'oubliez pas, monsieur le marquis, reprit maître Bachelin avec un sourire, que nous sommes, nous autres, des chasseurs rustiques. Moi qui ai la prétention de me montrer vêtu décemment dans la vie ordinaire, si vous me rencontriez en chasse au coin d'un bois, je vous ferais peur. C'est monsieur d'Herblay, soyez-en sûr. Et si je ne le reconnaissais pas au portrait que vous venez de tracer de lui et qui est frappant, l'offre aimable qu'il vous a faite suffirait pour dissiper mes doutes. C'est bien lui. « Alors je suis gentil, moi. Je lui ai dit, en parlant de lui-même, qu'il était un voisin incommode et toutes sortes d'autres choses désobligeantes. Mais il va falloir que j'aille lui faire des excuses. »« Vous n'aurez pas à prendre cette peine, monsieur le marquis, et si vous voulez annoncer ma visite à madame votre mère, je vais devant elle vous donner connaissance de certains faits qui modifieront, j'en suis certain, l'opinion que vous vous êtes faite de monsieur d'Herblay. » « Ma foi, je ne demande pas mieux, » fit Octave en se débarrassant de son harnais de chasse. « Ce maître de forge a l'air d'un aimable compagnon. » Tout en parlant, le marquis était entré dans le salon, s'était approché de madame de Beaulieu et, lui ayant baisé respectueusement la main, « Maître Bachelin est là, ma mère, et voudrait vous voir. »« Que n'entre-t-il ? » dit la marquise avec vivacité. « Voilà 10 minutes que je vous entends bazarder sur le perron. » « Bonjour, mon cher Bachelin !» Et comme le notaire se courbait autant que sa taille replète pouvait le lui permettre, « M'apportez-vous de bonnes nouvelles ?» ajouta la marquise. La figure de Bachelin changea d'expression. De souriante qu'elle était, elle devint soucieuse. Et, éludant la question que sa noble cliente lui posait, le notaire répondit d'un ton sérieux, « Je vous apporte des nouvelles, oui, madame la marquise. » Et comme s'il eût été pressé de passer à un autre ordre d'idée, je suis allé ce matin à Pont-Aven et j'ai vu M. d'Herblay. Toutes les difficultés qui se sont élevées entre vous et lui au sujet de vos limites communes sont aplanies. Mon honorable ami accepte toutes les conditions qu'il vous plaira de dicter. Il est heureux de se mettre à votre discrétion. Mais s'il en est ainsi, dit Mme de Beaulieu avec un léger embarras, nous n'avons pas de conditions à dicter. Du moment qu'il n'y a pas de lutte, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. L'affaire sera soumise à votre arbitrage, mon cher Vachelin, et tout ce que vous ferez sera bien fait. Voilà une résolution qui m'enchante, et je suis heureux de voir la paix rétablie entre l'usine et le château. Il n'y a donc plus qu'à signer les préliminaires. Dans ce but, M. Derblay a l'intention de se présenter à Beaulieu avec sa sœur, Mademoiselle Suzanne, pour vous offrir ses hommages, Madame la Marquise, si toutefois vous daignez l'y autoriser. Certainement, qu'il vienne. Je serai très contente de le voir enfin, ce cyclope qui noircit toute la vallée. Ah, ça, mais je suppose que ce n'est pas seulement ce traité de paix qui gonfle ainsi votre portefeuille, dit Madame de Beaulieu en montrant la serviette du notaire. Vous m'apportez sans doute quelques documents nouveaux pour notre procès d'Angleterre ? Oui, Madame la Marquise, oui, reprit Bachelin avec un trouble plus accentué. Si vous voulez bien, nous allons parler affaires. Et d'un coup d'œil suppliant, le notaire montrait à la marquise son fils et sa fille. Madame de Beaulieu comprit. Une vague inquiétude lui serra le cœur. Qu'avait donc de si grave à lui apprendre son homme de confiance que le huis clos lui parut nécessaire? Mais c'était une femme résolue que la marquise. Son hésitation fut de courte durée. Et se tournant vers son fils, « Octave, dit-elle, vois donc si les ordres ont été donnés pour qu'on aille au chemin de fer chercher nos cousins qui arrivent à 5 heures. » À ces mots, Claire leva la tête. Son frère tressaillit. L'intention de la marquise était évidente. Elle prenait un prétexte pour éloigner son fils. Il y avait entre ces trois êtres qui se chérissaient si tendrement une préoccupation mystérieuse qu'ils essayaient de se cacher mutuellement. Claire et le marquis, sans faire de questions, adressèrent à leur mère un sourire et s'éloignèrent chacun dans une direction opposée. Mademoiselle de Beaulieu, lentement, descendit sur la terrasse. La pensée que Bachelin apportait des nouvelles du duc de Bligny lui était soudainement venue, et, profondément émue, sentant ses idées tournoyer dans son esprit sans qu'elle pût en fixer une seule, elle marchait sous les grands arbres, n'ayant plus la notion du temps, livrée à un trouble profond. Dans le salon, la marquise et Bachelin étaient restés en présence. Le notaire ne faisait plus d'efforts pour donner à son visage une expression souriante. Il était maintenant grave et recueilli. Madame de Beaulieu resta un moment silencieuse, comme si elle eût voulu jouir jusqu'à la dernière minute de la tranquillité qu'elle avait encore. Puis, prenant sa résolution, « Eh bien, mon cher Bachelin, qu'avez-vous à m'apprendre ?» Le notaire secoua tristement sa tête blanche. « Rien de bon, madame la marquise, répondit-il, et c'est pour moi, vieux serviteur de votre famille, un sujet de vive affliction. Le gain du procès engagé de son vivant par feu monsieur le marquis de Beaulieu, votre époux, contre ses collatéraux d'Angleterre, est gravement compromis. « Vous ne me dites pas toute la vérité, Bachelin, interrompit la marquise. S'il y avait encore une lueur d'espoir, vous ne seriez pas si abattu. Parlez, je suis forte, je puis tout entendre. Les tribunaux anglais ont décidé, le procès est perdu. » Le notaire n'eut pas le courage de répondre. Il fit un geste qui équivalait au plus désolé des aveux. La marquise se mordit les lèvres, une larme brilla au bord de ses cils, aussitôt séchée par le feu qui lui montait au visage. Bachelin, consterné, se mit à marcher à pas pressés dans le salon. Il avait oublié tout respect. Il ne se souvenait plus du lieu révéré où il se trouvait. Et, entraîné par son émotion, gesticulant comme lorsqu'il étudiait une affaire dans son cabinet, il disait « La cause avait été mal engagée. Ces sollicitors sont des ânes et avides. Ils vous écrivent une lettre, c'est tant. Vous leur répondez, ils lisent la réponse, c'est tant. » Si le marquis m'avait demandé conseil encore. Mais il était à Paris, et son avoué l'a mal dirigé. Encore des ânes, ces avoués de Paris. Des gaillards qui ne savent que pousser au papier timbré. Il s'arrêta brusquement et frappant dans ses mains. Voilà un coup terrible pour la maison de Beaulieu. Terrible en effet, dit la marquise, et qui entraîne la ruine de mon fils et de ma fille. Il ne faudra pas moins de 10 années d'économie pour que sur ma fortune je rétablisse nos finances. » Bachelin avait cessé d'arpenter le salon. Son calme était revenu et maintenant il écoutait Madame de Beaulieu avec un respect attendri. Il savait que la perte du procès était irrémédiable. Il venait de recevoir le jugement. et aucun recours, aucun appel n'était possible. La dédaigneuse incurie du marquis avait permis à ses adversaires de prendre de sérieux avantages, et désormais la lutte était insoutenable. « Un malheur arrive bien rarement seul, reprit la marquise. Vous devez avoir d'autres mauvaises nouvelles à me faire connaître, Bachelin. Pendant que j'y suis, dites-moi tout, ajouta madame de Beaulieu avec un sourire résigné. Je ne crois pas pouvoir être plus gravement atteinte que je ne le suis. Je voudrais partager cette confiance, madame la marquise. Ce que j'ai encore à vous apprendre ne me paraîtrait pas si pénible. Mais je connais la délicatesse de votre cœur et je crains que des deux malheurs, ce soit la perte d'argent qui vous paraisse le moins sensible. » La marquise pâlit et une agitation extrême s'empara d'elle. Elle pressentit ce que son homme de confiance allait lui dire et, incapable de se contenir, « Vous avez des nouvelles du duc de Bligny ? » s'écria-t-elle. « J'avais été chargée par vous, madame, de m'enquérir des faits et gestes de monsieur votre neveu, » dit le notaire avec une nuance de dédain bien caractéristique chez ce fervent adorateur de l'aristocratie. « J'ai suivi de point en point vos instructions, et voici les renseignements qui m'ont été transmis. Monsieur le duc de Bligny est à Paris depuis 6 semaines. »« Depuis 6 semaines ?» répéta la marquise avec stupeur. « Et nous l'ignorions ?»« Monsieur, votre neveu, se serait bien gardé de vous le faire savoir. » »« Et il n'est pas venu ?» Et il ne vient pas encore, connaissant le revers qui nous atteint, car il le connaît, n'est-il pas vrai ? Il l'a connu, madame la marquise, et des premiers. Madame de Beaulieu fit un geste de douloureuse surprise, et avec un accent de profonde affliction, « Ah, vous avez raison, Bachelin, voici qui me touche plus cruellement que la perte d'argent. Le duc nous abandonne, il n'est pas venu et ne viendra pas. J'en avais le pressentiment. « Ce qu'il voulait de nous, c'était une fortune. La fortune a disparu, le fiancé s'éloigne. L'argent, c'est le mot d'ordre de cette époque vénale et cupide. La beauté, la vertu, l'intelligence, tout cela ne compte pas. On ne dit plus « place aux plus dignes », on crie « place aux plus riches ». Or, nous voilà presque pauvres, on ne nous connaît plus. » Bachelin avait écouté avec tranquillité la violente apostrophe de cette mère ulcérée. Malgré lui, le notaire ne pouvait dissimuler un secret contentement. Il était redevenu très rouge et frottait machinalement ses mains derrière son dos. « Madame la marquise, dit-il, je crois que vous calomniez notre époque. Certes, les idées positives y dominent et la cupidité naturelle à l'espèce humaine a fait de notables progrès. Mais il ne faut pas condamner en bloc tous nos contemporains. » Il y a encore des hommes désintéressés pour qui la beauté, la vertu et l'intelligence sont des biens qui font une femme enviable entre toutes. Je ne dis pas que de ces hommes-là, j'en connaisse beaucoup, mais j'en connais au moins un, et en l'espèce, un seul suffit. « Que voulez-vous dire ? » demanda la marquise, étonnée. « Simplement ceci, poursuivit le notaire, qu'un galant homme de mes amis n'a pu voir mademoiselle de Beaulieu sans en devenir éperdument épris. La sachant engagée avec le duc, il n'aurait point osé faire connaître ses sentiments, mais qu'il la sache libre et il parlera si vous daignez l'y autoriser. » La marquise regarda fixement Bachelin. « C'est de Monsieur Philippe d'Herblay qu'il s'agit, n'est-il pas vrai ?»« Oui, madame la marquise, de lui-même, » répondit hardiment le notaire. « Je n'ignore point les sentiments que ma fille a inspirés au maître de forge, » reprit la marquise. « Il ne les cache pas, pas assez même. »« Ah, c'est qu'il aime mademoiselle Leclerc, et sincèrement, lui, » reprit avec feu le notaire. « Mais vous ne connaissez pas assez complètement Monsieur d'Herblay, madame la marquise, pour pouvoir le juger à sa valeur. »« Je n'ignore pas qu'il est fort estimé dans le pays. Mais vous, mon cher Bachelin, vous êtes lié avec sa famille ?»« J'ai vu naître Monsieur Philippe et sa sœur mademoiselle Suzanne. » Leur père voulait bien m'appeler son ami. Ceci vous explique, madame la marquise, l'audace avec laquelle je viens vous faire connaître les sentiments de Monsieur d'Herblay. J'espère que vous voudrez bien me la pardonner. À mes yeux, mon client n'a qu'un seul défaut, son nom, qui s'écrit en un seul mot, sans apostrophe. Mais en cherchant bien, qui sait, la famille est fort ancienne. Sous la Révolution, les honnêtes gens se serraient les uns contre les autres, les lettres ont bien pu en faire autant. Qu'il garde son nom tel qu'il est, dit tristement la marquise. Il le porte en homme d'honneur, et dans le temps où nous vivons, cela suffit. Regardez le duc de Bligny, qui s'éloigne de Claire ruiné, puis voyez M. d'Herblay, qui recherche une fille pauvre, et dites-moi, du noble ou du roturier, quel est le gentilhomme ? M. d'Herblay serait bien heureux, madame, s'il vous entendait. Ne lui répétez rien de ce que je viens de vous dire, interrompit gravement la baronne. Mademoiselle de Beaulieu ne reçoit de générosité de personne, et avec le caractère que je lui connais, il est probable qu'elle mourra fille. Plaise à Dieu, mon ami, que le double coup qui va la frapper la trouve forte et résignée. Le notaire resta un moment interdit, puis avec une émotion qui faisait trembler sa voix. Quoi qu'il advienne, madame la marquise, souvenez-vous que M. d'Herblay serait le plus heureux des hommes s'il lui était jamais permis d'espérer. Il attendra, car lui non plus n'est pas de ceux dont le cœur change. J'entrevois dans ces événements bien des chagrins pour nous tous, car vous permettez, n'est-ce pas, à un vieux serviteur tel que moi, de se compter parmi ceux qui sont destinés à souffrir de vos tourments. Maintenant, s'il m'était permis de donner un conseil, je vous engagerais à ne rien dire à mademoiselle de Beaulieu. Le duc de Bligny fera peut-être un retour sur lui-même. Et puis il sera, pour mademoiselle Claire, toujours temps de souffrir. Vous avez raison. Quant à mon fils, je dois lui apprendre le malheur qui le frappe. Et, marchant jusqu'au perron, la marquise, d'un geste, appela le jeune homme qui, assis sur la terrasse, attendait patiemment la fin de la conférence. « Eh bien, dit-il avec gaieté, la séance est-elle levée, ou bien m'appelez-vous pour que je siège avec vous ?»« Je veux en effet, répondit doucement la marquise, te faire connaître des nouvelles graves et qui me causent une vive affliction. » Le marquis devint sérieux en un instant et, se tournant vers sa mère, « De quoi s'agit-il donc ?»« Mon fils, maître Bachelin, a reçu une communication définitive de notre représentant judiciaire en Angleterre. »« Au sujet du procès ?»« Oui. » Octave s'approcha de la marquise et, lui prenant affectueusement la main, « Eh bien, dit-il, il est perdu. » La marquise, stupéfaite, en constatant avec quel sang-froid le marquis acceptait cette désastreuse nouvelle, regarda Bachelin comme pour lui demander une explication. Mais, voyant le notaire rester impassible, elle reporta ses regards sur son fils. « Mais tu le savais donc ? » interrogea-t-elle en respirant plus à l'aise, comme soulagée par la calme résignation du marquis. « Je ne le savais pas absolument, répondit le jeune homme, mais je m'en doutais. Je ne voulais rien vous dire, j'ai respecté vos illusions, mais j'étais parfaitement convaincu que ce procès était insoutenable. Aussi, depuis longtemps, suis-je préparé à sa perte, je ne la redoutais que pour ma sœur, dont la dot était en jeu. Mais il y a un moyen très simple d'arranger les choses. Vous lui donnerez la part que vous me réserviez dans votre fortune. Et quant à moi, soyez sans inquiétude, je me tirerai d'affaire tout seul. » À ces généreuses paroles, la marquise rougit d'orgueil, et, se tournant vers le notaire, « De quoi me plaindrais-je, dit-elle, ayant un pareil fils ?» Et tendant les bras au marquis, qui souriait doucement, « Tu es un brave enfant, viens que je t'embrasse !»« Je n'ai pas de mérite, dit le marquis avec émotion, j'aime ma sœur, et je ferai tout pour qu'elle soit heureuse. Et pendant que nous sommes en train de parler de choses tristes, est-ce qu'à votre avis, le silence de notre cousin de Bligny ne se rattache pas à ce procès perdu ?« Tu te trompes, mon enfant, dit vivement la marquise, en faisant un geste comme pour retenir le marquis. Et le duc ?« Oh, ne craignez rien, ma mère, interrompit Octave avec une dédaigneuse hauteur. Si Gaston hésitait à tenir ses engagements, maintenant que mademoiselle de Beaulieu ne se présente plus à lui avec 1 million dans chaque main, nous ne sommes pas gens, je crois, à l'aller prendre au collet pour le forcer à respecter sa parole. Et j'estime, en ce cas, que si le duc de Bligny n'épouse pas ma sœur, ce sera tant pis pour lui et tant mieux pour elle. « Bien, mon fils !» s'écria la marquise. « Bien, monsieur le marquis !» appuya Bachelin. « Et si mademoiselle de Beaulieu n'est plus assez riche pour tenter un coureur de dot, elle sera toujours assez parfaite pour séduire un homme de cœur. » D'un coup d'œil, la marquise imposa silence à Bachelin, et celui-ci, heureux de voir finir aussi favorablement une crise qui lui semblait devoir être terrible, ayant présenté ses civilités à ses nobles clients, prit de toute la vitesse de ses vieilles jambes le chemin de Pont-Aven.